amateur.
Il n'y a pas d'art neutre, combat ou sert la cause prolétarienne.
Plein d'inardeur, noble.
Journal vivant, revue politique.
Construction, obéir à sa voix.
Ah oui, c'est un malade, hein. C'est un vrai dingue. Il est capable de tout faire. Hein.
Imiter son silence.
Bonjour à toutes et à tous, il est 13h, vous écoutez le Théâtre de la Gamelle, votre émission de théâtre radiophonique en direct de Radio Canu tous les vendredis de 13h à 14h. Aujourd'hui, nous vous proposons la lecture d'une pièce de Fausto Paradivino. La pièce s'intitule « Nature morte dans un fossé » et éditée à l'Arche. Avec moi dans les studios, il y a Benjamin Butel, Lucas Fernandez, Emeline Dubrief, Samuel Tarlet et Céline Meillot. Bonjour.
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 Vous voyez aujourd'hui une très très grande équipe. Et bien sans faire attendre, je vais céder la parole à Céline qui va nous dire quelques mots sur la pièce et l'auteur.
Bonjour et merci au Théâtre de la Gamelle de nous accueillir pour cette lecture de Nature morte dans un fossé de Fausto Paravidino. Donc Fausto Paravidino qui est un auteur italien qui a écrit une dizaine de pièces. Exit, La maladie de la famille M, Deux frères, Gêne 01, Peanuts et bien sûr Nature morte dans un fossé. Mais il n'est pas seulement dramaturge, il est aussi comédien, metteur en scène, cinéaste, traducteur notamment des œuvres de Pinter et Shakespeare. Et pourquoi j'ai choisi donc Nature morte dans un fossé aujourd'hui? Déjà d'une part pour faire un clin d'œil à l'événement Quai du Polar qui a eu lieu en mars dernier. Et aussi pour vous présenter et vous parler d'un jeune collectif lyonnais qui se nomme Acide Scénique. Dont Mélodie Dubreuil, metteur en scène et comédienne, est à la tête de ce collectif et actuellement en création avec ce texte. Et c'est grâce à eux que j'ai découvert Fausto Paravidino. Et donc, si vous voulez plus d'infos sur Acide Scénique, ils ont un site internet acide-scénique.wix.com où vous pouvez aussi les trouver sur Facebook, collectif Acide Scénique. Voilà, quant à l'intrigue, il y a 6 personnages. Chaque personnage en fait raconte à l'instant présent ce qu'il est en train de lui arriver. On va découvrir leurs pensées et l'intrigue va se résoudre tel un puzzle. Voilà, au fur et à mesure. Je n'en dis pas plus et place à l'intrigue.
Macaque avec Alberto et les autres, je commence à me faire chier sec. Je cherche une excuse pour me tirer ou quelqu'un à ramener chez moi. Je demande à la grosse à lunettes si elle veut que je la jette quelque part parce que je m'en vais. Elle attendait que ça. On la boucle tout du long, 60 km. Je me gare en bas de chez elle, moteur allumé, et je la regarde. La grosse à lunettes dit que si je veux, je peux éteindre le moteur. Je lui sors que je laisse tourner pour faire chauffer la voiture. Elle dit que je suis un drôle de type. Je comprends qu'elle l'entend pas comme moi. Ça me fait plaisir quand même et je lui réponds par un sourire antipathique et aguichant. Elle dit « Alors salut ?» Elle m'embrasse, j'ouvre la bouche. Elle y fourre sa langue et donnant, je lui fourre ma main dans la petite culotte. Elle fait ça gêner. « Non, s'il te plaît. » Bon, je me résigne facile. Mais vu que j'ai roulé 60 km, je déboutonne mon jean, je lui prends la main... Et je la fous sur ma bite. Elle me branle. Je jouis dans mon froc. Elle veut me dire des choses. Mais je tire la gueule, genre c'est bon, j'ai joui, maintenant tu descends. Elle comprend vite. J'attends pas qu'elle rentre chez elle. Je passe la marche arrière et je me casse. Me voilà en train de rouler comme un fou. J'ai qu'une envie, c'est de me rincer la bite. Le sperme sèche et commence à coller, ça me démange. Je mets ma main dans mon froc pour décoller une touffe. Et l'airbag m'explose à la gueule. Quand j'ai lâché tous les jurons que je connais, je marque une pause et je descends de la voiture. La voiture, c'est une épave, plus moyen de la bouger. Tout en pensant à ce qu'il faudrait faire, je me mets à marcher pour faire connaissance avec les fossés, l'endroit où je me suis planté. C'est la première fois que je m'y arrête. À la fin de la balade, je rentre dans la voiture. J'allume la loupiote pour prendre mon portable. j'ai du sang sur une chaussure. Alors que je pensais que j'avais rien. Je retire ma chaussure et je m'inspecte. Putain, je me suis rien fait du tout. Mais j'ai une chaussure sale. Je descends de la voiture, pieds nus. On dirait Cendrillon pété après le bal. Je retourne dans le fossé, mouillé et dégueulasse. On voit que dalle, tellement il fait noir. Je marche sur du mou. Je mets ma main. Je touche un pied nu. Une autre Cendrillon pété après le bal. Je touche plus haut. Un con, tout froid. Je pense que c'est le deuxième con que je touche en une heure, c'est un record pour ma main. Je regarde ma main, Guinness Book, elle est pleine de sang. J'ai un ticket avec une cadavre.
J'ai trois taches rouges sur une Lumberjack pointure 43 dans un sachet nylon étiqueté, indice de preuve numéro 1. Une Golf incrustée dans un arbre avec que la gendarmerie attend impatiemment de faire enlever. Un gars en état de choc qui parle en rafale et ne dit rien. Une jeune fille nue dans un fossé qui attend le médecin légiste. Putain, c'est la poisse. Jeune fille blanche nue, morte assassinée. Là, ça fait scoop et avec les scoops, on bosse mal. Donc il me reste 16 heures avant le JT du soir. Donc 16 heures pour donner un nom à l'assassin et j'ai toujours pas celui de la victime. Et pendant que je calcule, il me reste plus que 15h59 minutes. L'an dernier, nous avons eu 8 cas d'homicide. 6 étaient pour moi, bouclés sans gloire ni remous en une demi-journée. Je contrôle les derniers avis de recherche. Je ne trouve rien de significatif. Je préviens la centrale, la police et les gars de l'hôpital de m'appeler dès qu'ils reçoivent les signalements de femmes blanches entre 20 et 30 ans. Je suis là avec deux ambulances. Une pour la morte et l'autre pour le témoin. Le propriétaire de l'indice de preuve numéro 1 et de la Golf plantée dans l'arbre. Je prends sa déposition inutile et je consens à ce qu'on l'emmène à l'hôpital. J'aperçois le collègue Mussy qui tourne en rond au milieu des infirmiers et des collègues de la gendarmerie. Je lui demande ce qui lui arrive. Mussy montre la victime et me demande « Elle est comment ?»« Morte, je fais !» Mussy hésite, il est en train de remplir le procès verbal. « Non, comment elle est ?» « Mal. La position, demande Mussy. Abdominal. » Mussy, satisfait, écrit sur le procès-verbal « abdominal » en marmonnant « voilà, abdominal ». Par contre, quand elle est ventre en l'air, « dorsale ». Le médecin légiste est arrivé et a commencé son travail. J'ai 15h55 minutes pour résoudre l'affaire et l'agent Mussy est très content d'avoir appris un nouveau mot. Le docteur Cristofolini retire le thermomètre du cul et dit « 3h environ ». Je pense à l'endroit où j'étais à 1h du matin cette nuit, à l'endroit où se trouvait mon témoin numéro 1. Je pense au monde qui rôdait par ici, aux voitures qui pouvaient bien passer dans cette rue. Le photographe prend encore 2 ou 3 clichés du corps avant qu'on ne le retourne. Maintenant, nous la voyons en face. Le médecin légiste marmonne « interdit au moins de 16 ans ». Je pense au JT du soir et je ne réponds rien. Je sens la gêne de Mussy derrière moi. Je le regarde droit dans les yeux. Les siens sont fixés sur notre cliente. Il est blanc comme le fromage du même nom. Je lui demande « qu'est-ce qu'il y a ?» Il me tend un papier. C'est le... Je dis d'attendre dans la voiture. C'est la mise à jour des avis de recherche. Le dimanche matin à 4 heures, la liste est souvent longue. Les mamans s'inquiètent. Je parcours les signalements. Je mets une croix à côté des 4 avis qui me semblent plausibles. Je griffonne au bas de la page quelques signes distinctifs de la victime. J'appelle Mussy pour qu'il passe les coups de fil de vérification. Arrive l'agent Di Paolo.
Mussy est en train de nettoyer Alpha et il l'a toute... Il s'est trouvé mal.
Je remets le papier à Di Paolo sans commentaire et je retourne vers le cadavre. Hématome de dimension variable sur tout le corps. Je demande au docteur Cristofolini des précisions qu'il ne veut pas me donner sur la nature des hématomes. Il est évasif, il a un court moment de quiétude entre nous. Je le regarde et vais droit au but. Elle est morte de quoi ? Dans quelques heures, nous aurons les résultats de l'autopsie. Docteur, je n'ai pas le temps d'attendre la vérité. Votre tâche est de la certifier, la mienne de l'anticiper. Bariolé, il hésite et jette un regard autour de lui. Mon impression pour le moment, c'est que la victime est morte suite aux coups et blessures. Di Paolo apparaît avec un bout de papier en main et la tronche de celui qui s'attend à être félicité.
Inspecteur, je voudrais pas me tromper, mais je crois bien qu'on a mis la main sur les parents.
Je lis un avis de recherche. Je le crois aussi. Où est-ce qu'on peut les joindre? Je me suis déjà permis de les convoquer à l'hôpital pour la reconnaissance du... Il hésite, de leur fille. Prenons la voiture. Di Paolo m'arrête. Inspecteur, le collègue Mussi a à peine terminé de nettoyer l'alpha, ça sent encore un peu, mais si vous voulez bien, ne lui dites rien. Il est très gêné à cause de l'inconvénient. Les images se superposent. Une jeune fille tuée à coups de pied et à coups de poing, et l'agent Di Paolo, fier de son travail, qui parle tact et inconvénient. Je ne sais pas quoi faire de cette association d'idées, et je marche vers l'alpha qui pue.
Il nous demande si nous voulons qu'une voiture vienne nous chercher. Mario est en train de mettre son costume ligné. Je lui pose la question et il répond « Je sais conduire, tu crois pas ?» J'aurais préféré qu'on vienne nous chercher, parce que quand il est nerveux, il est vraiment dangereux au volant. Mais il me répond de telle façon qu'il n'y a pas moyen de discuter. Je mets mon manteau en vitesse et je l'entends qui fait chauffer la Fiat Punto. Je le regarde conduire. Je regarde ce visage et son costume ligné, éclairé à intervalles réguliers par les réverbères et les premières lueurs de l'aube. Il est tendu et élégant, comme le jour où nous sommes partis nous marier. Peut-être était-il pareil le jour où il est venu à l'hôpital pour la naissance de la petite. C'était il y a 22 ans. Il est en train de rouler vers le même hôpital. C'était le début. Et là, c'est peut-être la fin. Ça lui paraît inouï, un jour comme aujourd'hui, de ne pas trouver de place devant l'hôpital. Je pense que lorsque nous nous sommes mariés avec ce même costume ligné, mais dans une autre voiture, bariolé de papier hygiénique, il était tout aussi contrarié et tout aussi désenchanté. Nous nous garons sur un emplacement réservé à la police, à côté d'une Alpha portière ouverte et gyrophare allumé. Nous descendons de voiture, il y a une odeur âcre, l'hôpital sans doute, l'aubre peut-être ou un début de nausée. Devant l'entrée de la morgue, il y a une ambulance ouverte. Je jette un coup d'œil à l'intérieur, il n'y a pas de civière, mais deux taches de sang au sol. Quelque chose se brise en moi comme si, tout à coup, j'allais avoir mes règles. Mon mari me serre la main brutalement. Maintenant je sais que nous allons voir le corps de ma fille. Les portes de l'hôpital se sont refermées derrière nous. Un policier en uniforme vient à notre rencontre. Il a le regard fuyant et parle à voix basse. Ça me fait un drôle d'effet. Monsieur et Madame Orlando, je veux voir Elisa. Mario referme sa main sur la mienne comme pour me dire « Chérie, on a l'air de quoi ?» Je l'exècre lui aussi avec ce costume bleu ligné qui a fait ma joie il y a 30 ans. Le jeune policier m'indique son supérieur, un quadragénaire en civil, les cheveux tristement plaqués de gel et la tête de quelqu'un qui ne partage aucune de mes convictions.
Le corps est ici, si vous voulez bien me suivre.
Son naturel me réconcilie avec lui. Il nous mène à elle. Tuméfié, gonflé, pâle, nu, telle qu'elle ne se montrait plus depuis des années. Je regarde le policier qui attend une réponse. C'est Elisa Orlando, ma fille. Voici ses papiers. Et je les lui donne. Mario continue de regarder la petite et murmure « Trouvez les salauds qui ont fait ça !» J'éprouve une tendresse inouïe en l'entendant inventer ces mots qui ne lui ressemblent pas. Il est tout petit. Tout à coup, je l'aime comme si je découvrais en lui quelque chose de très beau qu'il ne m'a jamais montré. Le policier répond
« Je vis pour ça. »
Et il envoie tout promener. J'attends devant la salle où il s'apprête à éventrer Elisa parce qu'il pense que l'assassin se cache dans ses boyaux. Sur un banc inconfortable, mon mari et moi essayons de tenir, embrassés dans le silence. Les policiers vont et viennent, complotent, leurs radios croisent des informations indéchiffrables qu'ils font mine de ne pas écouter. L'inspecteur vient vers nous, il voudrait me poser quelques questions. J'accepte. Après quelques questions, je me rends compte que je ne peux rien lui apprendre. Petit ami, lieu de sortie préféré, groupe de copains.
Vous avez remarqué quelque chose d'étrange dernièrement ?
Je réprime l'inévitable instinct de répondre. Demandez-lui. Je lui dis ce que je sais.
Menace ?
Non.
Un coup de fil suspect ?
Non.
Perversion sexuelle ?
Qui n'en a pas ? Il esquisse un sourire, se lève, fait le tour du bureau, vient se placer dans mon dos. Il me met mal à l'aise, mais je ne veux pas me retourner. Il pose une main sur mon épaule, je sursaute.
Madame Orlando, ce qui vous arrive est terrible. Que vous ne m'autorisiez nullement à m'immiscer dans les affaires privées de votre fille est tout à fait compréhensible. Je ne la connaissais pas, je ne l'aimais pas. Ça fait une grande différence entre nous. Je n'ai ni le temps, ni l'envie de vous raconter pourquoi je fais ce métier. Mais j'ai besoin de votre aide pour empêcher ce qui est arrivé à votre fille n'arrive à d'autres.
Je me retourne violemment sur ma chaise. Il est encore debout derrière moi. Je lui entoure la taille et j'éclate en sanglots sur son ventre pendant 5 bonnes minutes, trempant toute sa chemise. Un agent entre.
Tout va bien ?
Vous pouvez disposer, Mussy. Tout va bien. Ils sont prêts pour l'autopsie. Dites-leur que j'arrive. Il se rassied de l'autre côté du bureau. Je voudrais excuser ma crise de larmes, mais je ne le fais pas.
Madame Orlando, pourriez-vous me raconter, s'il vous plaît, votre journée d'hier ?
Je lui dis tout ce dont je me souviens. Il me remercie, me donne son numéro de portable au cas où un détail utile me reviendrait, m'accompagne. Nous sortons de la pièce et il s'en va chercher les secrets cachés dans les viscères de ma fille. Je retrouve mon mari qui m'attend en costume ligné. Il me regarde comme si je sortais de chez le dentiste. Pourquoi ne suis-je pas parvenue à pleurer avec lui, comme avec l'inspecteur ?
Journée. Le samedi, il y a toujours un boulot de fou. J'ai fait une connerie, j'ai accepté le client d'un pote. Il m'avait dit, c'est quelqu'un de réglo, tranquille, c'est juste que j'ai plus de marchandises. C'est un client auquel je tiens, tu peux lui en donner ? Je te fais confiance, 100 grammes. J'ai fait le difficile et puis j'ai dit oui. 100 grammes, ça fait 4000 euros, 1000 et demi pour moi. Je viens de rentrer de Milan avec tout ce qu'il faut, ça tombe bien. Je rencontre ce type que je connais pas, en bas de chez lui. On dirait quelqu'un de bien, sauf que les gens bien n'en prennent pas. T'as le fric ? T'as ce qu'il faut ? Il monte dans ma voiture, sniffe un coup. Ok, elle est bonne. Je te crois qu'elle est bonne. Il prend le paquet et veut sortir. Je fais, eh oh le fric ! Attends-moi ici. J'attends dans la voiture et je pense, putain le mec, il aurait pu prévenir. Il sort de chez lui, vient vers moi. Je vais ouvrir la portière, il sort son flingue. Colle le calon contre le pare-brise et fait, tu disparais, ok ? J'ai le mien dans mon froc, mais je l'ai jamais utilisé. Je sais pas s'il est chargé. Ok. J'embraye la marche arrière et je disparais, comme il a dit. Me voilà un samedi soir avec une merde à 2500 avec ceux de Milan. Bien sûr, le fils de pute qui m'a filé le client a pas les 2500. La preuve, c'est qu'il est à sec. Moi, je sais pas où les trouver. J'ai une semaine avant que les mecs de Milan se ramènent pour me faire la peau. Je fais un tour pour me calmer les boules. Mon cul qu'elle se calme. Alors j'en profite pour aller trouver le pote en question. Il n'y a que ça à faire et faut que ça se fasse. Je le trouve au Mamour, près de la gare. C'est un bar à dealer, mais il traîne tout le temps. C'est clair qu'il n'a pas encore eu vent de ce qui s'est passé. N'empêche, il doit bien s'en douter, vu que quand j'entre, il est tout gentil, nerveux et me demande ce que je bois. Un apéro à 2,5 et c'est lui qui paye, je fais à la barmaid. La barmaid sourit parce qu'on lui a appris à sourire quand elle piche pas les feintes et voilà le pote en question qui se met à reculer. Voilà, minute, je sais pas de quoi tu causes, mais si tu penses que... Et un tas de conneries du genre, jusqu'à ce que je le coince contre une machine à sous. Alors je lui dis franco qu'il a deux possibilités. Soit je le tabasse, soit je le fais tabasser, et ça sera pire. Il choisit la première. Nous passons dans l'arrière-boutique. Après un quart d'heure, je lui demande s'il a besoin d'une ambulance ou s'il se débrouille seul. Il choisit l'ambulance. Je lui rends son portable et je me tire. J'ai pas résolu mon problème, mais je me sens plus cool. Je rentre chez moi, je coupe le restant de la cam. Je me demande si je dois couper encore pour me faire plus de blé. C'est pas la peine, vu que j'en tirerai jamais 2,5. À ce compte-là, c'est con de perdre la confiance des clients sans résoudre mon problème. Et je décide de me concentrer de quoi je gagne proprement. Je me fais ma dose et je passe la nuit un peu au fadango, un peu au macaque. Je deal un coup, je mate les filles et je tente de trouver un poste qui me filerait 2,5. À 6h du mat, pas de filles, pas de potes, mais j'ai tout vendu. Je me prends la dose que j'avais mise de côté et je rentre me rouler le petit pétard du dodo. J'arrive chez moi, la porte est ouverte. Putain, tu vas pas me dire que les gars de Milan ont déjà flairé le truc. Si c'est mon connard de pote qui veut remettre ça, c'est qu'il est vraiment couillon. Et puis je pense que vu l'état où je l'ai laissé, ça paraît difficile qu'il tente le coup. Bref, je vérifie que mon flingue est à sa place, dans mon froc, et j'y vais l'air cool en lâchant un « Qu'est-ce que tu veux ?»
Tiens, je passais par là, je me suis dit que tu pouvais m'offrir un café.
J'en ai plus et j'ai rien fait.
Et moi, je t'ai encore rien mis sur le dos. Je vais juste causer un peu. C'est dommage pour le café. J'ai eu une nuit longue et difficile.
À qui le dis-tu ? Ça s'appelle pas de bol. Avec toutes les couilles qui me sont tombées dessus aujourd'hui, fallait bien que ça finisse avec ce fouille merde d'inspecteur salty chez moi. Je lui demande ce qu'il veut. Il continue à me bassiner avec le café. J'ouvre une armoire de cuisine. Il n'y a pas de café. Je me retourne. Il a en main la photo d'une jeune femme. Il me demande si je connais. Je connais pas.
Donc tu l'as pas bien regardé. Viens voir là si tu la connais.
Il me la joue aimable. C'est signe que c'est pas une connerie. Il pose la photo sur la table. Je la prends. Je la regarde. Je la connais pas. Il me flanque une baffe que je mérite pas. Je dis « Putain, tu veux quoi ? Je suis déjà dans la merde jusque-là. » Il en a rien à battre de mon merdier. Il trouve que je devrais la connaître. Je demande pourquoi il en est si sûr. Il répond que l'autopsie a révélé des traces de coke dans le sang et que si c'est pas moi qui lui ai vendu, c'est forcément un pote à moi. Alors je fais semblant de collaborer et j'examine la photo comme si je la reconnaissais pas. Je savais même pas qu'elle était morte, je suis réglo. Mais j'ai pas envie de lui dire ce que je sais, le laisser mariner peut m'être utile. Je sais pas encore comment, mais je veux du temps pour y penser. En attendant, j'ai une idée sympa. Je dis que le connard que j'ai envoyé à l'hosto sait des choses, histoire qu'il aille lui casser les couilles. Il s'attend sûrement à une fausse piste et joue le jeu sans se fâcher. Mais il faut que je lui en donne une bonne aussi. Alors je lui dis que je suis pas sûr, mais que hier, la fille était au macaque.
À quelle heure ?
Avant qu'on la tue.
À quelle heure ?
Genre 10 heures. Il est un peu déçu. Il me demande avec qui elle était. Je dis que je les connaissais pas. Il me croit pas. J'essaye de me souvenir. Je répète que je les connaissais pas. Il demande si elle était sous. Je dis que dans ce bar, le samedi soir, tout le monde est sous. Et sauf si quelqu'un te gerbe dans les chips, tu fais pas gaffe. Il demande si j'ai dealé au macaque. Je réponds que je peux pas lui donner des noms. Question de dignité professionnelle. On tombe d'accord. Il m'amènera une liste de personnes à qui j'ai vendu au macaque et moi je dois dire oui ou non. Il dit que si je suis pas là dès qu'il a besoin de moi, il fera passer un mauvais quart d'heure. Je lui dis que le mauvais quart d'heure dure depuis longtemps et à la fin, il me lâche.
Ah, bonjour, commissaire. Pardon, inspecteur. Non, oui, je dormais, mais pas de problème. Non, plutôt bien. Ça a été un peu dur avec mes parents, mais moi, ça va. Qui ça ? Elisa Orlando ? Je pourrais pas vous dire, je crois pas. Oui, j'étais au macaque, pourquoi ? Comment ça ? Boulotte, châtain foncé, 22 ans. Mais c'est qui, ses copains ? Ah, vous savez pas ? Elle était au macaque ? Là, maintenant, je vois pas. Il y a du monde, là-bas. Oui, à 10h, j'y étais. Quoi ? Elle est ? Elle est morte ? C'est celle que... Oh, c'est celle que j'ai... Oh putain ! Oh, dis donc putain ! Oh, non, non, je vous demande pardon, c'est que... Permettez que j'essaie de... C'est ça, avec une photo des fois, ok, j'arrive. Comme ça on parle. À tout de suite. Ah non, attendez, j'ai pas de voiture. Merci, oui, dans 10 minutes. En bas dans 10 minutes. Moussi, très bien, Moussi, en bas dans 10 minutes. Merci. Putain. Allô, Alberto ? Ouais, salut. Non, c'est important. Mais va te faire foutre, je sais qu'il est 7h. Putain, je me doute que tu peux t'encore, c'est dimanche, tu devrais piger que c'est important. T'es à deux doigts de... Oh merde. Oh, excuse, c'est... Mais c'est qui ? Oh, la salope. Non. Non, c'est qu'hier, j'avais vu comment ça tournait et qu'elle en avait rien à foutre, alors je pensais pas que... Bon, non, mais non, c'est important, écoute. Si je te dis Elisa Orlando, tu penses à quoi ? Fesse molle ? Non, je la drague pas. Mais non, ça a rien à voir qu'elle soit mignonne. Mais je t'ai dit, je la drague pas ! C'est chasse gardée de J... Non, J-Po peut pas me casser la gueule. Elisa Orlando est morte. Je t'avais dit que c'était important. Je t'ai appelé parce que je veux des renseignements. Non, je lâcherai pas ton nom. Attends une minute. Qu'est-ce que t'as à voir là-dedans ? Non, c'est toi qui vas te faire foutre. Je t'appelle parce que j'ai un problème et toi tu me réponds. Putain, merde, on sonne. On vient me chercher. Qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que je fais ? Que je la connais pas ? Et s'il me torture ? Et s'il me coince pour faux témoignage ?
12 heures avant le JT du soir et 25 que je dors pas. Je me suis arrêté une heure. J'ai regardé les photos prises sur le lieu du crime, celles des témoins et d'une poignée de prévenus pour agression ou deal. Mais j'y arrive pas. Parce que je sais pas qui est cette Elisa. C'est toujours pareil. Tu commences par les parents. Ils s'extasient sur la réussite de ses examens en fac, te jurent que c'était une petite fille modèle, jamais de soucis, plein d'amis, elle sortait uniquement le samedi et s'intéressait à tout. Après l'autopsie, tu découvres qu'elle se shootait à la coke. Tu reçois les résultats d'un test et tu apprends qu'elle s'envoyait en l'air avec tout ce qui bouge. Je patauge. Mon dealer préféré m'a envoyé à l'hôpital voir un crétin qui ne l'a jamais vu. J'ai perdu une demi-heure. Le témoin numéro 1 a fait semblant de ne pas la connaître pendant près de 4 minutes. Di Paolo est revenu avec les gants et la matraque. Le témoin a parlé pendant 40 minutes sans s'arrêter, a bu 4 litres d'eau et resté 10 minutes aux toilettes, puis Mussi l'a ramené chez lui. Il la connaissait de vue. Se souvenait d'elle au macaque. Se souvenait vaguement de ses vêtements. Le graphiste lui a fait un dessin. Il l'a reconnu. Il se souvenait pas des personnes à sa table, mais est apparu un certain...
Alberto, un gars qui a couché avec elle, je crois. Mais je vous en supplie, dites pas que je vous l'ai dit.
Est apparu aussi un petit copain, une sorte de protecteur, le genre qui te casse les côtes si tu t'approches d'elle. Il s'appelle J-Po. Il a été cité plusieurs fois pour deal. Je vois qui c'est. Je sais pas où le trouver, mais mon dealer préféré sûrement. Le témoin conclut en disant qu'elle ne faisait pas partie de sa bande de copains. Di Paolo demande
« De quelle bande elle faisait partie ?»
Le témoin répond qu'il ne sait pas, il ne fréquente pas cette bande-là. Di Paolo lui pose d'autres questions, mais le témoin a peur, il la ferme. Di Paolo comprend qu'il a trop fait le méchant et m'appelle. Je renvoie Di Paolo, je joue au papa avec le témoin, il me fait une grande révélation.
Vous savez, commissaire, excusez-moi, inspecteur, nous les jeunes, nous tous quoi, on n'est pas des toxicos, rien à voir, juste un petit pétard, de temps en temps. C'est comme une clope, mais ça te pète un peu plus quoi. Alors t'es cool, c'est pas un crime. Je fais pareil de temps en temps. Mais pas ceux que fréquentaient la fille Orlando, eux, ils y vont fort. À la coke. Il paraît qu'ils se piquent. Moi, j'ai rien à voir avec eux. Hein. Moi, je veux juste m'amuser, m'éclater avec mes potes et puis basta. On rentre à la maison.
Bon, je le remercie, je lui dis de jamais se piquer, d'éviter la coke et d'y aller mollo avec les pétards. Je lui dis de nous appeler des fois qu'en y repensant, il se souviendrait de quelque chose qu'il aurait oublié. Je le fais ramener chez lui et je rentre dans mon bureau pour regarder mes travaux de petit biologiste. Je trouve deux messages. Le préfet et ma femme. Ma femme est inquiète, moi c'est le préfet qui m'inquiète. Il aime inquiéter le peuple pour ensuite le rassurer. Moi, je résous l'affaire en 24 heures, et lui, après avoir averti les journaux, passe au JT pour se vanter de ma rapidité et montrer qu'une fois de plus, la ville est sauve grâce à lui. Il faut que je trouve Jippo, le putain de con qui lui refilait la cam. J'appelle mon dealer préféré, je laisse sonner au moins 10 fois, puis il me raccroche au nez. Je rappelle. Vous êtes sur le répondeur de... Je lui laisse un message du genre, si tu rappelles pas la seconde, je t'envoie quelqu'un, ça va me prendre 20 minutes et tu te feras démolir dans les règles. Je pense que je lui ai jamais laissé mon numéro. Je m'apprête à le rappeler, le téléphone sonne. C'est la centrale du 113. Il y a un certain La Ruina qui veut vous parler. Ce con a appelé directement le 113. Je lui demande où je peux trouver Jippo. Il me sort qu'il voulait justement m'en parler, comme si c'était lui qui appelait. Il n'arrive pas à mettre la main dessus. Jippo lui doit des sous, il le cherche et ne le trouve pas. C'est comme ça qu'il s'est rappelé que Jippo a eu affaire avec la fille Orlando. Tu parais qu'il a mis les voiles. Bref, La Ruina accuse Jippo, un de ses clients. Je ne sais pas ce qu'il y a dessous, mais ce Jippo nous intéresse tous les deux. Nous établissons la liste des domiciles possibles en ville et en dehors, et puis on fait un deal. S'il le trouve, il le cuisine d'abord et me le passe. Si c'est moi qui le trouve, on fait pareil. Je sais que je ne respecterai pas le pacte, mais je sais que La Ruina en fera autant. Je décide d'organiser une filature. J'aurai besoin d'une équipe, mais je ne veux rien demander au préfet, je décide de me débrouiller. Je fais passer les photos de Jippo chez les carabiniers, à la police de la route, ainsi qu'à tous les postes de contrôle. Mussi et Di Paolo ne sont toujours pas rentrés, mais je ne peux pas les coller aux fesses de La Ruina parce qu'il les connaît. Je les enverrai contrôler les différents domiciles. Je jette un coup d'œil sur les nouveaux agents recrutés. Il y a un petit jeune très débrouillard qui s'appelle Caminati. Je lui donne l'ordre de quitter son bureau, de se faire un look, de prendre sa voiture et de se poster en bas de chez La Ruina. Il est tout content d'être à la criminelle. Il me fait...
Monsieur l'inspecteur Salty, je ne vous décevrai pas.
Je ne lui dis pas que c'est la première fois qu'on m'appelle monsieur. Je prends une voiture et je file à la recherche de Jippo.
À 6h30 du mat, je viens à peine de m'envoyer le petit pétard du dodo. Dodo mon cul. Parce qu'en plus du problème avec les gars de Milan, j'ai aussi Salty sur le dos. Et comme ça, vu que j'arrive pas à dormir et que je suis passablement pété, j'ai une idée qui me paraît conne à première vue. Le mec d'Elisa est mon client. Il a plutôt l'air d'un toxico que d'un revendeur. Quoi qu'il en soit, c'est un type qui achète chez moi et qui a toujours payé cash. Je me dis que le problème avec Salty peut m'aider à résoudre un autre problème. J'ai pas encore fini de réfléchir, ou comment. Peut-être à cause de l'excitation parce qu'on lui a tout juste buté sa gonzesse. Et que si ça se trouve, il n'en sait encore rien. Ou que si ça se trouve, c'est lui qui l'a fait. Bref, j'ai la vilaine envie d'appeler direct Jippo. Je file dans la cabine d'en face parce qu'avec le portable, on sait jamais et que mon téléphone, depuis la visite de Salty, discontraint qu'il est sur écoute. Il répond comme si de rien n'était, genre normal que je l'appelle à 6h30 du mat. Du coup, je lui dis, comme si de rien n'était, que j'ai une demi-affaire entre les mains et que j'ai tout de suite pensé à lui. Un type me doit 4000. D'habitude, il est plein aux as, mais là, il attend. Moi, je les dois à des types qui n'attendent pas. Pour faire court, j'en ai besoin tout de suite. Si lui, Jippo, me refile 2500 tout de suite, moi je lui vends ma dette de 4000. Ça paraît cool. Il y réfléchit un coup. Je calcule rapide et je lui dis qu'il se fait du 20% et plus. Il réfléchit encore un peu et me fait...
Les 4000, c'est toi qui les rembourses ?
Là, je lui dis qu'il se fout de ma gueule. Si j'avais voulu un prêt, je lui en aurais demandé un sans les 20% et plus. Je te file une dette, je lui fais. Toi, tu me files les 2500 et ensuite tu vas chercher tes 4000 quand tu veux. Alors il la joue bougon. Il dit qu'il a pas envie, que ça pue le coup foireux, qu'il n'achète pas les dettes de gens qu'il connaît pas et qu'il a pas confiance en moi. Je demande, comment ça va avec Elisa ?
Qu'est-ce que ça peut te foutre ?
Je voulais savoir, c'est toi qui l'as buté, vu que tu supportais plus d'être avec une fille moins con que toi, ou c'est eux, pour te faire piger qu'elle supportait plus d'être avec un mec encore plus con qu'eux ? Il demande c'est quoi ses couilles. Je sais pas s'il fait semblant ou s'il est vraiment sur le cul. Pour pas me tromper, je dis que je suis juste en train de lui annoncer qu'il est dans la merde. Jippo m'insulte. Moi, je l'arrête et je lui dis que j'en ai rien à cirer de qui l'a buté. De toute façon, ça le concerne. La criminelle est venue me chercher et moi, j'ai rien dit parce que je suis pas une balance et que de ce point de vue, il a rien à craindre. Mais puisque je lui ai fait une faveur, il m'en doit une. Il demande si c'est du chantage. Je réponds qu'il a rien pigé. Moi, je lui ai fait une faveur, lui m'en fait une et se paye 1500 en prime de fin d'année.
Si je le fais pas ?
Si tu le fais pas, va falloir que je dise aux flics que j'avais trop de bordel dans la tête, mais que maintenant un tas de trucs me sont revenus, et patati et patata. En plus, je me taperai la honte, parce qu'ils comprendront que l'autre jour, je leur ai raconté des conneries. J'arrête là et je lui donne une heure pour être au Mamour avec 2,5 000. Et me voilà à 7h30 devant le bar, planqué là où j'ai l'habitude de contrôler les allées et venues. À 8h moins le quart, pas d'entrée, ni de sortie, ni lui, ni personne qui lui ressemble. Alors j'entre, je bois un café, je jette un coup d'œil aux chiottes, je vais vers le téléphone, je l'appelle chez lui, sur son portable, il a disparu. Je rentre chez moi en me disant qu'il y a 2 ou 3 possibilités. Soit je lui ai vraiment foutu les jetons et il a filé chez sa grand-mère, soit je lui ai pas foutu et il s'en bat les couilles. Pour la première fois, je suis traversé par le doute qu'il ait vraiment tué. Dans ce cas, je pourrais bien me faire buter à mon tour. Si c'est quelqu'un qui l'a tué pour le faire chier, me voilà dans la merde jusqu'au cou. Je pense que j'ai fait une grosse connerie et que j'ai intérêt à trouver Jippo avant qu'il me trouve. J'arrive chez moi et me demande si c'est prudent de rester là avec d'un côté les mecs de Milan et de l'autre côté cette affaire-ci. Au point que, lorsque le téléphone sonne, je fais dans ma culotte et je réponds pas. J'écoute le message, c'est Salty qui menace, je dois rappeler. Alors je pense, et c'est bien la première fois, que ce que je sais vaut mieux le dire aux flics. Si Salty trouve Jippo avant moi, je perds 2,5 000 à coup sûr, mais il m'enlève de les pieds. Si je le trouve avant lui, c'est mieux. Je dénonce Jippo à Salty et je conclue même un deal du genre on compte jusqu'à 3, à 3 on commence à chercher, le premier qui trouve c'est pour lui. Je suis sûr que Salty respectera pas le deal, je m'en fous.
Pourquoi ? Un drôle de pressentiment maternel me laisse croire que je suis la seule à savoir. L'envie d'appeler l'inspecteur pour lui demander les résultats de l'autopsie. Envie que je réprime. J'ai vu son visage. Je connais son sourire vivante. J'ai vu son sourire morte. J'ai tous les éléments pour découvrir ce qui a eu lieu entre les deux. Je n'ai pas besoin de savoir ce qu'ils ont trouvé dans son sang ou dans son ventre. Je ne parle pas avec mon mari. Nous n'en sommes pas capables. Qui sait quand nous le serons ? Il est couché sur le lit, il a retiré ses chaussures et son veston. Il y a un trou de plusieurs heures entre la dernière fois où j'ai vu Elisa vivante et celle où je l'ai retrouvée morte. J'essaye de combler ce trou. Hier, samedi, elle s'est levée tôt. Nous sommes restés ensemble toute la matinée. Nous avons pris le petit déjeuner, nous sommes partis faire les courses ensemble, elle et moi. Nous avons parlé de son enfance. Elle voulait savoir des choses sur moi et papa avant sa naissance, quand elle venait de naître, etc. J'ai pensé qu'elle avait l'intention de se marier, qu'elle désirait un enfant, mais je n'ai rien dit. Je ne connais même pas son petit ami. Nous avons déjeuné tous ensemble, elle, papa et moi. Mario nous a raconté brièvement sa journée de travail, il était fatigué. Puis il est parti lire le journal aux toilettes. Elisa devait sortir. Elle m'a embrassé et la porte s'est refermée derrière elle. Pour toujours. Savait-elle qu'elle partait mourir ? Je ne sais pas ce qu'elle fait le soir. Je ne sais pas ce qu'elle fait la nuit. Peu importe, je la connais. Je pense à ce qu'une jeune fille de son âge peut faire de pire. Même si elle le faisait, ce serait toujours elle, Elisa. Il n'y a rien que je puisse ignorer, rien qui puisse faire que son sourire soit celui d'un sujet à risque. Je m'assieds sur sa chaise, au milieu de la chambre. J'ai honte. Je trouve son carnet. Je lis les dernières pages, citations tirées des livres que je lisais à son âge. Mon mari me surprend. Je referme le carnet brusquement et je lève les yeux. Il est debout, sur le pas de la porte. Il ne dit rien. Le temps se dilate. Chaque banalité que nous échangeons est un roc. Je pense que depuis la naissance d'Elisa, j'ai cessé de l'appeler Mario. Je l'ai appelé papa. Devrais-je recommencer à l'appeler Mario ? N'est-ce pas le nom d'un étranger ? Je comprends qu'aujourd'hui, je commence à lutter contre la folie. Le téléphone sonne.
La palabra no dice nada y al mismo tiempo lo esconde todo. Igual que el viento que esconde el agua, como las flores que esconde el lodo. Una mirada no dice nada y al mismo tiempo lo dice todo.
como la lluvia sobre tu cara o el viejo mapa de algún tesoro, como la lluvia sobre tu cara o el viejo mapa de algún tesoro. Una verdad no dice nada y al mismo tiempo lo esconde todo, como una hoguera que no se apaga, como una piedra que nace polvo. Si un día me faltas, no seré nada, y al mismo tiempo lo seré todo, porque en tus ojos están mis alas y está la orilla donde me ahogo, porque en tus ojos están mis alas.
Je me gare en bas de la piole de Jipo. Je sonne n'importe où, je dis que je mets de la publicité dans les boîtes, et on m'ouvre. Je me demande pourquoi ça marche toujours. J'ouvrirai jamais pour de la publicité. Enfin bref, je monte les escaliers, j'arrive devant sa porte, c'est au 3e étage, je sonne, silence. Je lui ai déjà donné assez de temps pour s'organiser. Je donne un coup de pied dans la vieille porte et j'entre. L'appartement est désert, mais il a dormi là et il a pris son petit déjeuner. Le téléphone est débranché, il y a des messages sur le répondeur. Le dernier, c'est la ruina. Il dit
« Réponds, fils de pute, je sais que t'es là. »
etc., etc. Je rembobine la bande. Le second message, c'est quelqu'un qui a raccroché. Le précédent est une voix de femme.
« Jipo ?» Jipo, c'est moi. Réponds. Je t'en prie, réponds, c'est moi.
C'était le dernier. Peut-être ma morte a-t-elle une voix maintenant. Je débranche le téléphone et j'appelle la famille Orlando. La mère répond, je lui fais écouter la voix du message. C'est elle. Madame demande comment avancent les recherches. Je dis que je suis sur une piste et que j'essaye de la suivre. J'ai besoin de parler à son petit ami, un certain Jipo. Je ne sais pas si ça lui dit quelque chose. Elle ne le connaît pas. Je lui demande si elle s'est souvenue d'autre chose. Elle me dit non. Fin du coup de fil. Donc j'empoche la cassette du répondeur. Est-ce un appel à l'aide? Si c'en est un, il disculperait Jipo? À quelle heure a-t-elle appelé? Je vais obtenir d'urgence les appels reçus et envoyés depuis le portable égaré de la victime, depuis le poste fixe de Jipo, et tant qu'on y est, de la ruina. J'ai un trou de 5 heures, durant lequel on suppose qu'Elisa était avec Jipo. Il pourrait avoir été ici, mais aussi ailleurs, et je n'ai pas de témoin pour ce laps de temps. Alors je cherche des traces du passage d'Elisa dans cet endroit. Dans les cendriers, il y a des cigarettes d'une seule marque, pas de traces de rouge à lèvres. Sur les verres non plus. Pas de préservatif dans la poubelle, pas de lingerie qui traîne, mais toutes n'en laissent pas traîner. Tous n'emploient pas de préservatif et toutes ne mettent pas de rouge à lèvres. Je ne peux exclure qu'ils aient été ici, sans baiser. Je dois relever les empreintes, mais je n'ai pas de mandat pour faire débarquer la police scientifique. Alors je décide d'emmener les empreintes chez moi. Je prends un sachet plastique, j'y fourre 2 bouteilles de bière vide et 4 verres sales qui traînent. Je fais une rapide perquisition, je ne trouve ni argent ni cam. Il est probable que mon homme a quitté les lieux pour un bon bout de temps. Je sais qu'entre 20 et 23 heures... elle devait être au macaque en compagnie d'individus non identifiés. Elle buvait, elle riait, elle blaguait, elle semblait tranquille. Avait-elle de la cocaïne dans le corps? Ou en aurait-elle absorbé par la suite? Vers 23 heures, elle quitte le bar probablement en compagnie des personnes avec qui elle y est entrée. Je suis en train de suivre une seule piste, celle qui m'a soufflé un indice intéressé. Je veux y croire. Je veux que ce ne soit qu'une affaire de drogue. Je veux que ma victime ait vendu du sexe en échange de doses. Je le veux pour neutraliser la violence, pour la rendre moins dangereuse, pour confirmer qu'ils ne se tuent qu'entre eux, qu'on choisit de mourir et que les victimes connaissent leur assassin comme les assassins connaissent leurs victimes. Et leur vie court vers ce rendez-vous et les autres n'ont rien à y voir puisque ne meurent que les sujets à risque. Je veux attraper Jippo pour qu'il confirme ma théorie. Je veux saloper le nom des Orlando, souiller le passé de leur fille pour que tout le monde puisse dormir en paix. Mais peut-être que j'ai tort. Peut-être que ce n'est pas comme ça. Peut-être que la violence est moins prévisible. Je la sens dans mon ventre. Je descends de ma voiture pour prendre l'air. Il me faut d'autres témoins. Je respire aussi profondément que possible. Je vois un monde divisé en victimes et bourreaux. Personne ne sait de quel côté il se trouve jusqu'à ce qu'il rencontre l'autre moitié de la pomme. Celui qui le tuera, ou qui se fera tuer. Je trouve l'air vicié, ça sent le pourri. Le tableau se brouille, il fait noir. Je sens dans mon ventre les coups de pied qui ont tué la fille Orlando.
Italie, c'est une petite place devant la station service à Jeep. Voiture de luxe, voiture petite, camion. Mec en veste et en chemise, mec avec des gros bras et celle qui pue. Fauteuil de voiture, petit lit de camion, hôtel avec salle de bain sur palier et froid. Mon pays était beau. Tous les jeunes pouvaient étudier, tous les adultes pouvaient travailler. Je pouvais vivre avec ma maman et la famille et enseigner la musique. Et quand j'étais avec la musique, je ne sentais pas que ma famille avait du mal à tenir. Et je ne sentais pas que mon salaire, c'était 25 dollars. Je ne sentais pas la haine dans les rues et je ne sentais pas la guerre qui arrivait. Mais quand je terminais d'enseigner aux jeunes et que je rentrais à la maison, et il n'y avait plus de musique, toutes ces choses que j'ai dit avant, je les sentais. Et tous les jours, ma famille disait « Tu es jeune, nous maintenant, notre vie est celle-ci, notre terre est celle-ci, et choses comme ça. » Mais elle me disait « Ne pense pas que pour toi aussi c'est comme ça, parce que ton monde, c'est celui que tu connais. Nous connaissons seulement ce monde-ci, et nous devons rester dans ce monde-ci. Mais toi, tu peux connaître le monde que tu veux, et rester dans le monde que tu veux. » Et moi, je disais que mon monde était le monde où était ma famille et où était ma musique. Et quand après est venue la guerre, moi j'ai continué avec ma musique. Mais puis, beaucoup de garçons sont allés combattre et d'autres ne sont plus venus à l'école. Jusqu'à l'école, il n'y avait plus personne. Et puis, elle est devenue un dépôt d'armes. Alors, il n'y avait plus de musique. Et moi, continuant à dire que mon monde était où était ma famille. Mais sans musique, je sentais seulement la guerre. La lumière électrique, il y avait toujours plus ou moins. Il y avait pauvreté et haine. Alors, avec les yeux mouillés, j'ai dit à ma famille que je ne pouvais plus rester et que je devais partir et rechercher un nouveau lieu. On pouvait être la musique et où je pouvais être, moi. Et mon père a donné tous les quelques dollars qu'il avait mis de côté à des personnes qui pouvaient me faire aller en Italie, pays de Vivaldi, Puccini, Verdi. Mais les dollars, c'était pas assez. Mais quand même, ces personnes ont accepté qu'elles m'emmènent en Italie et me donnent des papiers italiens. Et quand en Italie je trouvais du travail, je leur donnais l'argent qui manquait pour le voyage et les papiers. Et j'ai fait long voyage, affreux. Et puis, quand je suis arrivée en Italie, les hommes qui s'étaient mis d'accord avec mon père m'ont menée dans la vieille maison de campagne, avec d'autres filles de mon pays. Sans lumière, sans eau. C'était comme mon pays. Ne pas pouvoir sortir, sans lumière, sans eau, sans musique. Puis les hommes arrivent, et je leur demande papier, pour pouvoir sortir, pour trouver travail. Et eux disent qu'ils donnent papier que quand je finis de les payer. Et moi, comment je fais pour payer si je peux pas chercher travail? Et alors ils me disent que me trouve du travail. Et ils l'ont fait. Italie, c'est une petite place devant un Jeep. C'est bouche, chatte, nichon, cul, bidon qui brûle pour avoir un peu chaud, copine qui parle ma langue, pas de papier et attention police. La journée enfermée dans la maison et la nuit au travail. Et penser à la musique et chanter avec mes copines et chanter en moi en silence, sans m'arrêter. Beaucoup de notes, de notes, de notes, pour entendre seulement ça et ne penser que Italie, C'est juste un truc italien à l'intérieur de moi.
La table est mise pour deux. La nourriture est dans les assiettes. Mon mari et moi sommes assis face à face en attendant que ça refroidisse. Tôt ou tard, nous devrons commencer à manger. Le visage de mon mari est balayé par un éclair bleu. Je me retourne. Dehors est garée une voiture de police. Deux policiers descendent et se présentent. Agents Di Paolo et Mussi. Je leur demande s'ils ont déjà déjeuné. Di Paolo répond rapidement.
Non merci, juste un café, si ce n'est pas trop vous demander.
Il doit avoir l'habitude. Je débarrasse et je mets en route le café. Son collègue grignote de temps en temps en cachette de Di Paolo. Mario demande où en est l'enquête. Di Paolo s'assied. Ils en sont à une étape importante. L'enquête se resserre autour d'un certain Gippo. Mon mari soupire et je leur dis que Salty m'en avait parlé. En ce moment, Gippo semble s'être soustrait à son mandat d'amener et ils espèrent que nous pourrons les aider à le retrouver. Mario intervient brusquement. Si je savais comment, je l'aurais déjà pris avec mes mains. Di Paolo le calme.
Il n'est pas encore suspecté d'homicide, pour le moment. C'est ce que nous pourrions appeler un témoin clé.
À son domicile, ils ont retrouvé des empreintes de ma fille datant probablement d'hier après-midi. Puis on a aperçu Elisa et Gippo au bar, le macaque, à la sortie duquel un témoin dit les avoir vus se disputer violemment. Il semblerait que Gippo avait des baskets, mais Di Paolo a l'air très embarrassé. Les coups portés sur la victime l'ont été avec des chaussures à semelles de cuir.
Nous avons encore un trou de 3 heures entre la dernière fois où ils ont été vus ensemble et l'heure du décès de la fille Orle, de votre fille.
Mario baisse la tête et se masse les yeux. Je demande s'ils ont découvert quelque chose à l'autopsie. Il y a un grand silence gêné. Mussi intervient. Je ne sais pas si nous sommes autorisés à divulguer les résultats. Quelqu'un se donne le droit de lui ôter la vie, et moi, je n'ai pas celui de savoir comment. Les deux policiers souhaiteraient fouiller ses affaires. Je leur dis où se trouve la chambre d'Elisa et ils s'éloignent. Je reste dans la cuisine, avec mon mari qui continue à se masser les yeux. Après un moment, je lui demande s'il savait qu'Elisa se droguait. Ce qui est sûr, c'est qu'elle ne tient pas ça de moi. Ce n'est pas moi, le papa pétard, peace and love. Je ne comprends pas son agressivité. Je ne comprends pas ce qu'elle vient faire. Je ne comprends pas que mon passé me rende responsable de la mort de ma fille. Je lui dis. Il s'excuse, il répond simplement que si l'un de nous devait savoir que ma fille se droguait, c'était moi. Je ne comprends toujours pas, mais je n'insiste pas. La douleur nous a ramenés plusieurs années en arrière. Sans la fille qui nous liait, les différends refont surface. Je le regarde dans les yeux. Je regarde son costume. Je ne sais plus qui il est. Ce qu'il aime, ce qu'il fait. Les policiers reviennent avec une grosse boîte en carton. Si nous n'y voyons pas d'inconvénient, ils souhaiteraient emmener quelques objets. Je jette un coup d'œil. Beaucoup de photos, le carnet que je feuilletais. Ils disent merci et emmènent le tout. Seul, je fixe à nouveau cet inconnu qui se fait appeler Mario. Qui sait s'il est en train de penser la même chose que moi. Je voudrais lui demander, comme je l'ai toujours fait lorsque quelque chose n'allait pas, mais j'ai la nette sensation qu'il ne pourrait pas comprendre. Je choisis le silence et je me demande si le silence ne durera pas toujours.
Je me réveille en sursaut, tout en sueur. Putain, je me suis endormi dans le canapé. Ça doit être un poids lourd qui frappe à la porte. S'il frappe encore, il l'explose. J'ai pas beaucoup de temps pour comprendre qui je suis et d'où je viens. Je crie « J'arrive !» et une odeur de chien pourri me met KO. Je pige que c'est mon haleine. Je me souviens m'être endormi avec la bouteille de gin entre les dents. Je saute pour m'asseoir et je me paye un uppercut de mal de crâne à décrocher la mâchoire. Commençant à émerger les réponses possibles à la question « Qui je suis ?» Je suis celui que ceux de Milan vont tailler en pièces si jamais ils me trouvent. Je trouve la bouteille de gin entre deux coussins et j'en avale une goulée. Je suis celui que Gippo va buter si jamais il me trouve. Je vais à la cuisine. Je trouve un couteau de boucher rouillé et je le prends en main. Je suis celui qui a envoyé hier un type à l'hôpital et qui n'a plus eu de ses nouvelles. On frappe, j'arrive. Je suis celui que Salty pourrait très bien arrêter d'un moment à l'autre. Je suis immobile devant la porte, le couteau caché derrière le dos. Je tourne la clé, je déverrouille sans bruit et je recule d'un pas. Je fixe la porte et je savoure quelques secondes de suspense du meilleur cru. Je sors le couteau et je pense, si c'est Salty, je jette mon arme et je demande pardon. Si c'est quelqu'un d'armé, je l'embroche et puis je lui demande ce qu'il veut. On me laisse pas finir mon idée, voilà la porte qui se fracasse contre le mur, parce que le gars de l'autre côté a pris son élan, pensant devoir la défoncer. La plus grosse clé anglaise que j'ai jamais vue est en train de voler vers mon crâne. Je me jette instinctivement sur ma gauche. Puis j'entends deux cris, dont un qui est le mien. Je suis couché sur le carrelage avec mon avant-bras en L qui se met à gonfler comme un ballon de rugby. À un mètre de moi, les genoux fichés dans le sol, ce con de Jippo a l'air d'un bûcheron. Il tient la clé anglaise comme une hache. Au lieu d'une bûche, il a fendu deux tomettes et un tuyau. Mon couteau à rosbif est planté dans son avant-bras, avec le manche qui sort d'un côté et la lame de l'autre. Une fontaine de sang jaillit de son bras. Une fontaine d'eau sort du carrelage. La porte rebondit contre le mur et se referme d'un coup. J'ai le souffle coupé par la douleur et je n'arrive pas à hurler qu'il est devenu fou. Je vois qu'il est en train de changer la clé anglaise de main et de la lever pour mieux viser ma tête. Je me traîne jusqu'au canapé et lui me suit en glissant sur le mélange de sang et d'eau dans lequel il patauge. Je mets une main sous un coussin du canapé et j'en ressors un cafard, plus mon flingue Beretta. Je braque mon flingue vide dans sa tronche et je me mets à hurler. « Tu fais quoi, espèce de trou du cul de fils de pute? Regarde ce que t'as fait! Tu as cassé mon bras et tout le carrelage !» Lui se retient de pleurer à cause de la douleur et hurle à son tour.
« Je vais te tuer! Je vais te tuer !»
Il a l'air sérieux. Je commence à penser que c'est pas de veine que mon flingue soit vide. Là, on entend un autre bordel et la porte est à nouveau projetée contre le mur. Je laisse tomber Jippo et je braque mon arme en direction du chambranle. Un putain de gamin tremblant, en blouson de jean, pointe un revolver sur moi. Ce coup-là, tout le monde hurle. Je pense, c'est mon jour. Et je gueule, « Putain, qu'est-ce que tu veux, toi ?» Je sais plus si c'est ma veine ou pas que le revolver soit vide. Le gamin, j'ai toujours pas compris pour qui il bosse, se met à gueuler.
« Jetez vos armes !»
Et je trouve qu'il manque pas de culot d'appeler « arme » la clé anglaise de Jippo. « Jette la tienne d'abord !» Il insiste.
Jetez vos armes ou je tire.
Faut faire gaffe aux jeunes. Souvent, ils chient dans leur froc et ils font ce qu'ils disent.
Je vous arrote, tous les deux.
Je vous arrote, tous les deux. Ça te donne une idée de genre de con qui bosse pour Salty. Je lui sors très calmement. S'il lâche pas son engin, je lâche pas mon flingue. Le gamin entre dans l'appart et s'approche de Jippo comme s'il désamorçait une bombe. Il lui retire la clé anglaise des mains et la jette par terre en pulvérisant une autre de mes tomettes, le con.
Maintenant, baisse ton arme.
Je pose le revolver.
Debout, face au mur.
Jippo et moi, on se regarde. Comment veux-tu qu'on fasse? Tu vois même pas comment on est arrangé?
Appelle une ambulance, je suis en train de me vider.
Fait Jippo. Le gamin réfléchit un coup et continue à me braquer comme si j'allais lui sauter dessus. Ça me plaît pas du tout parce que un coup, c'est vite parti. Il prend son toki et fait.
Agent Caminati, poste 1. J'ai arrêté deux gars et ils sont blessés. Je demande du renfort. Une assistance médicale.
Il demande du renfort. Lui.
Il y a 2 heures, j'avais un indique et un témoin en cavale. J'allume la télé et je vois 2 assassins menottés. Soit les recherches ont connu un retournement imprévu, soit quelqu'un soude ma gueule. Retour du préfet à l'écran qui se félicite avec ses hommes et Di Paolo. On se farcit ensuite une belle déclaration du ministre de l'Intérieur qui rappelle la priorité donnée à la sécurité du citoyen. Se félicite lui aussi pour l'efficacité des hommes, c'est-à-dire nous, et menace d'arriver ici d'un moment à l'autre. Dans mon bureau, il y a Di Paolo. On regarde, ahuri.
Inspecteur, comment ça va? Vous êtes remis?
Où est Gipo?
Nous l'avons pris, inspecteur.
Je sais, je veux savoir où il est en ce moment.
Nous sommes en train de l'interroger, je crois qu'il est prêt à lâcher le morceau.
L'agent Caminati était posté en bas de chez la Ruina. Il a vu entrer quelqu'un qui correspondait au signalement de Gipo et il a essayé de m'appeler. J'avais éteint mon portable et il a décidé de filer. Gipo, il s'est posté devant la porte de la Ruina et a fait irruption lorsqu'il a entendu le bordel. Il a empêché un homicide, les a arrêtés tous les deux et a prévenu la centrale. Ils les ont embarqués, la Ruina, pour l'hôpital. Gipo est dans le Cagibi avec un bandage de fortune. Ils ont commencé à l'interroger et maintenant, ils font la pause. Je dis, fin de la pause, j'ai 2 questions à lui poser. Il va chercher les procès-verbaux des interrogatoires de Gipo et de la Ruina. J'apprends l'agression de Gipo sur la Ruina. Je découvre qu'au commissariat, Gipo a été passé à tabac, mais rien n'a avoué. Et que Mussi et Di Paolo ont été faire la cueillette chez les Orlando. Les empreintes trouvées sur les verres de Gipo étaient bien celles de la victime. Le coup de téléphone de la fille Orlando à Gipo doit remonter aux environs de minuit et provenait d'une cabine de banlieue près du périphérique. Les autres numéros n'ont pas été encore contrôlés. La déposition d'Alberto, l'ami du témoin numéro 1, évoque une dispute entre Gipo et la victime à la sortie du macaque, 2 heures avant le décès.
Je peux y aller maintenant?
Mais où tu veux aller, dit Paolo.
Chez moi?
Il tire la gueule, c'est le pompon. Je lui griffonne une adresse sur un bout de papier. Vas-y, repère la cabine téléphonique. 1 heure avant de mourir, la fille Orlando s'y trouvait.
C'est un coin à pute, inspecteur. Je vais y faire quoi?
Je réprime mon envie de lui répondre, de s'enlever une pas chère et d'aller se faire foutre. Va découvrir ce qui foutait la fille Orlando 1 heure avant de mourir. Interview les passants, les pompistes, les putes, les chats, les cailloux et les panneaux de signalisation.
J'emmène Mussi?
Non, Mussi, on lui confie le contrôle des numéros de téléphone et Caminati l'examen de ce que vous avez ramené de chez les Rolando. J'entre dans le Cagibi. Gipo est assis sur une chaise au centre de la pièce. Il se retourne brusquement. Il a le bras droit bandé avec un hématome au sourcil qui ne doit pas figurer dans le procès verbal.
Il est fou, votre collègue est fou.
Oui, oui, nous sommes tous fous. Et toi, le seul saint d'esprit, c'est ça? Si, c'est moi qui le dis. Tu es le seul saint d'esprit. Alors, tu respires un bon coup, tu te calmes et on recommence tout depuis le début.
Comment?
En fait, recommence d'où tu veux, hier, avant-hier, la semaine dernière. Tu sais où je veux en venir, alors épargne-moi ton enfance malheureuse et fais-moi plaisir.
Oui, bien sûr, inspecteur, les faits de la nuit dernière, comme vous dites... Tout ce que vous voulez, c'est pas moi, ils veulent me coincer. Votre collègue est de mèche avec la Ruina pour me coincer. Moi, j'ai jamais rien eu à voir avec ces gars, rien. J'aime pas ce gars. Non, je voulais pas le tuer. J'avais peur parce qu'il voulait me faire chanter. Oui, oui, la Ruina, pas votre collègue. Les types comme lui devaient être en tôle. Comment? Ce matin, j'étais chez moi. Oui, oui, j'étais chez moi. Et doucement avec les mains, s'il vous plaît. Vous y étiez? Ah, vous étiez chez moi ce matin. Moi, je devais être sortie. Oui, j'étais à peine sortie. Non, pas les oreilles, non. Aïe! Oh! Non. J'étais dans ma voiture. Oui, oui, ça va. Je me taillais parce que j'avais la trouille. La Ruina m'a fait chanter, je vous l'ai dit. Et c'est pour ça que je me tirais. Oui, et puis je suis revenue parce que je voulais... J'ai pensé que je pouvais faire un deal avec la Ruina. Je suis quelqu'un de raisonnable. Avec la clé anglaise? Oui, bien sûr. Il avait bien un couteau, lui. Alors moi, j'emmenais ma clé anglaise. Oui, mais du calme, hein. Il voulait des sous. Il avait des problèmes avec des types qui lui réclamaient des sous. Et alors, il voulait que je lui en donne 2000 et demi. Elisa Orlando, c'était ma copine, ouais. Je savais même pas qu'elle était morte. La dernière fois que je l'ai vu, c'était avant-hier. Oh, doucement, doucement! Oui, vous avez raison. Hier après-midi, elle était chez moi. J'avais oublié, oui. Hier après-midi, on était ensemble. Et c'est la dernière fois que je l'ai vue. Ah non, oui, c'est vrai. Du calme, hein. Hier soir, au macaque, oui. On était ensemble, au macaque. Oui, j'y suis pour rien. Je l'ai pas tué. On était ensemble, normal. C'est ma meuf, quoi. Je me souviens pas. Je vous l'ai dit, j'étais vraiment out. Je me souviens de rien, putain. Mais je l'ai pas tué. Je fais pas ces trucs-là, moi. Je l'aimais, putain. Elle est morte comment? Oui. À 3h30, elle est venue chez moi, je confirme. C'était convenu. Puis, vous voulez dire, pendant qu'on était à la maison, toujours les mêmes choses. On est sortis. Oui, au macaque, comme vous avez dit. Au macaque, oui. J'achète un peu de cam et Elisa paye à boire. Je sais pas à quelle heure. 11h, oui. Ça se peut, oui. On vous a dit qu'on s'engueulait. Qui vous a dit ça? Ok, c'est pas mes affaires. On s'engueulait, oui. On s'engueulait parce que... Normal. Non, entre amoureux. Des fois, le ciel est bleu, des fois, il drache. Non, vous fâchez pas. J'essaie de me souvenir. Je fais un effort. Les sous? Oui, l'histoire des sous. Oui, elle était fâchée parce que j'étais à sec et que j'avais même une grosse dette que je lui avais pas dite. Moi? Moi, j'étais pas fâchée contre elle, c'est-à-dire, j'étais fâchée parce qu'elle comprenait pas, elle voulait pas comprendre. Comprendre, quoi, que c'était notre problème à tous les deux et qu'on devait le résoudre à deux. On était dans la voiture. Oui, dans la voiture, dans ma voiture. Maintenant? Maintenant, elle est garée chez la Ruina. Il devait être 11h. Je sais pas, on était à peine sortis du bar. Je lui ai dit... Je me souviens pas vraiment des mots. Le concept... Oui, le concept, voyez, c'était une sorte de proposition pour surmonter ce moment. Oui. Alors, j'ai pensé que si elle faisait un peu le trottoir, en une ou deux soirées, on pouvait récupérer les quelques sous dont on avait besoin pour remonter la pente et s'en sortir. Elle? Et elle s'est fâchée. Mais moi, qui étais dans ce trip-là, j'avais la solution au problème. Je raisonne comme ça, moi, voyez? Je vois le problème, j'en suis malade un peu, puis je vois la solution, et la solution, c'est celle-là, un point c'est tout. Je sais pas comment vous raisonnez, vous, inspecteur. Bah, elle voulait pas, à aucun prix. Alors je lui ai foutu 2-3 baffes, mais en douceur. Elle s'est mise à pleurer, moi j'ai eu de la peine, mais comme j'avais décidé, on s'est fait deux lignes. Un peu de vodka dans la voiture, et j'ai eu une idée. Pour la consoler, pas pour qu'elle prenne ça mal. Je lui ai dit que c'était pas nécessaire qu'elle jouisse, que ça lui plaise, voyez? Qu'elle avait qu'à penser à moi pendant qu'elle le faisait. Alors j'ai décidé qu'on devait faire l'amour tout de suite. Comme ça, après, quand elle le ferait avec d'autres, je pouvais s'en souvenir. Ah oui, on l'a fait dans la voiture. C'était pas trop. Peut-être aussi que toute cette histoire nous avait un peu attristés. Je l'ai conduite au périph', près de la pompe à Jeep. Et je lui dis que je restais de l'autre côté de la route pour contrôler les allées venues et qu'elle devait pas s'inquiéter. À minuit est arrivé un client, genre grosse voiture BMW. Bah, j'ai pensé, voilà, si elle est pas conne, là, elle peut déjà se faire un max. Elle est montée dans la voiture. Moi, je sais pas ce que font les Macs dans ces cas-là. J'ai vu que la pute qui était avec Elisa avait personne pour la mater. Et j'ai pensé, c'est normal comme ça. J'ai dormi dans ma voiture. Non, je l'ai plus revue. La dernière fois que j'ai vu Elisa, il devait être minuit. Ah oui, je me suis réveillée vers 5h. Je me suis précipitée sur la petite place. Elle n'y était pas. Son portable était dans ma voiture. Elle m'avait pas appelée et j'ai pensé que sûrement elle était fâchée et qu'elle avait pas ramené un rond. Bref, j'ai essayé d'appeler chez elle, mais personne n'a répondu. Alors je sais pas pourquoi, mais je devais des sous. Elisa, je savais pas où la trouver. Et comme ça, je me suis tirée. Puis la Ruina m'a appelée. Voilà tout.
Après-midi, devant station-service, il y a le pompiste, le jeune, plus sympathique. Le vieux, le patron, je crois même pas que je travaille devant. Le jeune est toujours gentil et des fois il m'apporte café. Aujourd'hui on ne travaille pas beaucoup. Dimanche après-midi, presque tous sont à la maison avec leurs femmes. Ici, tout près, il y a un policier qui continue à poser des questions à tout le monde, et aux pompistes, et à moi. Et je ne sais pas comment je peux travailler s'il y a une voiture de police. Le policier demande aussi à moi si je connais une jeune fille, d'une photo qu'il montre. Mais moi, je ne peux pas parler avec la police. Et si je dis non, non, je ne comprends pas la langue, je ne connaissais pas, et va-t'en. Puis après, un autre moment que le policier finalement est parti, et moi, j'ai même fait du travail avec un camionneur. S'arrête une voiture, avec deux hommes. Moi, je dis qu'avec deux, non, non, je ne travaille pas. Parce que souvent, ils se moquent, ou bien à la fin, ils ne te payent pas et c'est dangereux. Mais celui qui conduit me dit d'être tranquille, que c'est seulement lui, que son ami l'accompagne, seulement, et à la fin, je monte. Quand je vois qu'il cherche parking près de la maison de la police, je demande où nous allons. Et lui, il me dit « chez lui ». Mais son ami est toujours dans la voiture et moi, je commence à me méfier. Et d'ailleurs, j'ai raison, parce que il m'explique très gentil que lui, il s'appelle Salty. C'est comme saleté, mais avec un « i ». Et son ami dans la voiture m'a reconnu et que l'autre soir, je travaillais avec la jeune fille de la photo. Il me dit qu'il ne veut pas me mettre en prison et qu'il doit seulement me poser quelques questions sur cette jeune fille. Je lui dis que je parle avec lui si d'abord il me fait téléphoner à ma famille. Comme ça, il m'emmène en haut, en son bureau, et il me donne le téléphone. Ça prend beaucoup de temps pour avoir la ligne, mais il me laisse faire beaucoup de tentatives, avec patience, et à la fin, après des mois, je réussis à entendre la voix de ma maman. J'ai tout de suite envie de pleurer, mais je ne veux pas qu'elle s'inquiète. Comme ça, j'essaye de ne pas pleurer. Je veux savoir de leurs nouvelles. Elle dit qu'ils ont passé un mauvais moment à cause de la guerre, que ça a été très difficile et que ma tante est morte, mais pas à cause de la guerre. Puis, me demande pourquoi je n'ai pas téléphoné et j'invente une excuse d'argent. Et puis, je lui raconte que je suis serveuse et que peut-être je suis en train de trouver du travail avec la musique. Nous pleurons toutes les deux. Je voudrais entendre la voix de papa et de frère, mais ne sont pas à la maison. Le téléphone se termine et je promets que je téléphonerai bientôt. Le policier me donne le mouchoir pour m'essuyer les yeux et me fait voir la photo de la jeune fille. Oui, c'est elle. Je ne l'avais jamais vue avant, mais hier, elle a travaillé avec moi. Il me demande de BMW, je dis que je ne connaissais pas les voitures. En tout cas, c'était une Deluxe, grosse, noire. Il me demande si je connaissais le chauffeur, et je dis que non, non, je ne le connaissais pas. Il me dit si, selon moi, il était dangereux, et je dis que non, je ne crois pas, parce que quand elle était revenue, la jeune fille allait bien. Mais elle pleurait et elle était saoule. Selon moi, c'était la première fois qu'elle travaillait. Elle m'a demandé si j'avais vu son fiancé, mais non. Je ne savais pas qu'elle avait copain, et ça me semble étrange qu'une jeune fille avec copain fasse le travail que je fais. Alors, elle va dans la cabine du téléphone pour l'appeler, mais elle ne le trouve pas. Elle revient sur la petite place et s'assoit par terre, car elle est fatiguée et a froid. Très. Policier me demande quand c'était la dernière fois que j'ai vu la jeune fille. Et je lui raconte qu'est arrivée une voiture avec des messieurs. Moi, je parle avec eux, c'est-à-dire avec un d'eux, parce qu'ils sont sous, et celui qui ne conduit pas dort. Celui qui est réveillé dit qu'il cherchait deux filles pour s'amuser un peu. Moi, je ne crois pas que mon ami veut encore travailler, mais lui me montre que beaucoup d'argent et me dit « toutes les deux ». Moi, alors, je vais chercher la jeune fille de la photo et j'explique la situation. Et elle me dit « comme tu veux ». Et ça me semble étrange, « comme tu veux », mais bon, moi je dois travailler, comme ça je la prends et nous montons en arrière de la voiture. Le type qui conduit parle un bon moment, puis l'autre se réveille et il dit des choses comme « surprise, regarde les belles poulettes que j'ai dégotées, la mienne c'est la Metec ». Et ici il se passe une chose un peu étrange, parce que le monsieur qui vient de se réveiller se retourne, nous regarde, et puis la jeune fille de la photo lui dit « salut », comme s'ils se connaissaient. Et lui, il regarde alors l'autre type et lui dit « oui, vraiment, de belles poulettes ». Puis il ne dit plus rien. Et nous arrivons là où il y a la voiture et l'autre type. Et lui prend jeune fille par un bras et la sort. Et moi, je vais travailler avec celui qui conduisait. Maintenant, policier voudrait que je regarde des photos en pile. Comme ça, pour voir s'il y a des types de la voiture et si je les trouve pas, de travailler avec un dessinateur. Mais moi, je lui dis qu'il est tard et que je dois retourner travailler. Qu'il me tue si je rentre sans argent. Je fais semblant d'y passer 5 minutes, mais en réalité, je décide tout de suite. J'ai confiance en lui, parce que moi, cette vie-là, je ne veux plus la vivre. Et s'ils doivent me tuer, tant pis. Il y a ceux qui naissent pour vivre et ceux qui naissent pour mourir, comme la jeune fille de la photo. Espérons pas moi. Comme ça, il me fait regarder un journal de voiture, et moi je reconnais celle de l'homme qui est parti avec la jeune fille. Elle s'appelle Punto Rouge. Puis il me fait voir beaucoup des photos, mais peut-être aussi parce que c'était la nuit, je n'arrive pas à trouver les deux hommes. Alors, je commence à travailler avec le dessinateur et nous passons beaucoup, beaucoup de temps. À la fin, on a un dessin qui lui ressemble un peu, même si moi je ne suis pas sûre. Alors, nous appelons le policier de tout à l'heure et lui regarde bien le dessin. Le policier veut rester seul un instant et me fait sortir de son bureau. Un jeune homme gentil m'apporte un thé chaud et bavarde un peu avec moi. Puis le policier sort de son bureau avec une nouvelle photo et me la fait voir. C'est lui ! C'est l'homme qui était avec elle, j'en suis sûre ! Le policier dit un gros mot tout bas et se prépare pour sortir très vite.
Je ne peux pas dire que l'arrestation de mon mari m'ait surprise. Bien sûr, je ne m'y attendais pas. Mais la mort d'Elisa, je ne m'y attendais pas non plus. Et cela m'a placée dans le monde des choses auxquelles je ne m'attendais pas et qui peuvent pourtant arriver. La police est venue ici arrêter un certain Mario, une pute qui l'a reconnu. Aujourd'hui, il m'avait l'air d'être quelqu'un d'autre. Puis je suis revenue en arrière dans mes souvenirs et il est devenu de plus en plus étranger à tout. Tandis que je dînais avec mes amis, mon mari sortait sous d'un dîner d'ingénieur. Son ami Andrea lui a proposé d'aller aux putes pour faire la nique aux épouses respectives. Mario a vomi un peu de grappin, a accepté en rigolant, puis s'est endormi dans la voiture d'Andrea. Il s'est réveillé devant la Jeep du périphérique, là où nous prenons toujours l'essence ensemble, où il avait toujours regardé les putes de l'autre côté de la route en me disant « Les pauvres, quelle vie !» Quand il s'est réveillé, Andrea lui en avait fait trouver 2 sur la banquette arrière. Il a accompagné Mario à sa voiture, il l'a laissé là avec Elisa et il est parti s'envoyer la sienne. Ils se sont regardés, Mario n'a pas voulu l'appeler Elisa, elle n'a pas voulu l'appeler papa. Elle lui a souri, le sourire s'est transformé en rire. Mario a essayé de l'interrompre avec une gifle. Ma fille s'est écroulée par terre en s'étranglant de rire. Mario l'a frappée jusqu'à ce qu'il entende le silence. Et dans le silence, la mort. Il a chargé le corps d'Elisa dans le coffre de la voiture. Il l'a emmenée dans une rue en dehors de la ville, l'a déshabillée et l'a déposée dans un fossé. Il est rentré à la maison, s'est changé. Il a mis ses vêtements tachés de sang avec ceux d'Elisa dans un sac à ordures et il est sorti les jeter dans un conteneur. Il est revenu à la maison, puis il s'est mis au lit où je l'ai trouvé 1 heure plus tard. Je lui ai demandé si Elisa était rentrée. Il m'a répondu « Non ».
Vous venez d'écouter le théâtre de la Gamelle. Je n'ai pas vu l'heure passer. Nous venons un peu de dépasser notre créneau horaire. Mais cela dit, c'était pour entendre la lecture d'un texte de Fausto Paradivino, Nature morte dans un fossé. Et c'est aux éditions de l'Arche. Voilà, vous pourrez réécouter cette émission comme d'habitude sur notre blog. Il y avait avec moi dans le studio, je le rappelle, Benjamin Butel, Lucas Fernandez, Emeline Dubief, Samuel Tarlet et Céline Meillot, ainsi que Amandine Vincent, moi-même. Je vous remercie à tous les 5 d'être venus. Et avant de conclure cette émission, je crois qu'on avait envie de vous parler très brièvement du festival Fraco, le Fraco Festival, qui a lieu comme tous les ans au Croiseur, et c'est en ce moment du 17 au 25 avril, festival burlesque. N'hésitez pas à y aller faire un tour, à réserver auprès du croiseur, www.lecroiseur.fr. Voilà, et il y a également un de nos comédiens présents qui joue au théâtre actuellement.
Oui, petit coup de pub, je joue ce soir et demain soir au théâtre des Asphodèles, la pièce Vestige, une pièce contemporaine, voilà, pour continuer les enquêtes. Au plaisir.
Voilà, merci à tous et à tous de nous avoir suivis. Merci à vous d'être venus.
Merci.
Je vous souhaite, comme d'habitude, un très bon week-end, une bonne semaine. Et on se retrouve pour le Théâtre de la Gamelle la semaine prochaine. Au revoir.
Au revoir.
Et sur son char.
Amateur.
Il n'y a pas d'art neutre, combat ou sert la cause prolétarienne.
Plein d'inardeurs, snobles.
Journal vivant, revue politique.
Construction, obéir à sa voix.
Ah oui, c'est un malade, hein, c'est un vrai dingue. Il est capable de tout faire. Hein.
Imiter son silence.